Chapitre 12. Les bois de crayon. Il est dangereux de trop creuser certaines situations. C'est s'exposer à voir l'analyse prendre corps et devenir une réalité. Ce qu'on avait prévu arrive. Ce qu'on avait indiqué s'effectue. La clairvoyance de Jacques dans cette circonstance de sa vie tenait autant à son inquiétude qu'à sa finesse. Il avait d'ordinaire beaucoup de tact pour reconnaître d'où le danger devait venir et par quelle tempête son bonheur pouvait être menacé, de sorte que s'il venait à s'ouvrir à une personne avec laquelle il fut en rapport, par ses reproches et par ses hypothèses, il lui traçait presque un plan de conduite. Et ce à quoi on n'eût jamais pensé sans ses observations, ce qu'on eût rejeté avec horreur, pouvait peu à peu prendre place dans l'esprit. Et, harcelé par ses soupçons, on pouvait arriver à se dire « Ce qu'il prédit là est assez vilain, mais ce n'est pas fou. » Non, à coup sûr, la première pensée de Caroline en voyant Chaise Martin et pendant le dîner n'avait point été l'intérêt. Non, elle n'avait point dit en elle-même « Ce jeune homme-là est riche, je le préfère à l'autre. » Seulement, elle avait joui instinctivement de ce moment de bien-être, et elle avait été charmée par les séductions du luxe. Mais lorsqu'elle fut seule, pendant les longues heures de travail au magasin, les paroles que Jacques avait si brutalement lancées lui revinrent à l'esprit. Elle y pensa, elle les pesa, et si Chaise Martin ne lui parut pas alors plus aimable, ni Jacques moins digne d'amour, cependant pour la première fois elle se formula clairement et à elle-même cette vérité, qu'ils étaient pauvres, et que la pauvreté avait tué plus d'un bonheur, glacé plus d'un amour. Jusque-là, en son illusion touchante, elle avait vécu dans la misère sans en avoir bien conscience. Sur les difficultés et les laideurs réelles, elle avait répandu sa gaieté, sa grâce, son affection, et tout lui était apparu voilé et embelli d'espoir. Mais la dernière scène qu'elle venait d'avoir lui montra la misère désagréable et odieuse, le présent triste et incertain, l'avenir sombre et plein de dangers. Non, assurément, elle n'en aima pas moins Jacques. Elle continua à se vouloir bien marier avec lui. Mais elle n'accepta plus avec autant d'insouciance la perspective d'un mariage nécessiteux et famélique. Dès lors, et malgré son application à cacher sa préoccupation intérieure, elle ne put se défendre de parler quelquefois à Jacques de cet avenir qui l'effrayait, et de l'engager à chercher un métier moins aléatoire et moins fantastique que celui qu'il exerçait. Elle parla aussi très vivement dans ce sens à son frère. Celui-ci se contenta de répondre avec calme.
Tâche de rendre la société juste, et toutes les poitrines auront de l'air. Qu'y a-t-il de plus beau que la gloire, de plus grand que l'indépendance ?
Pour toute réponse, Jacques lui dit « Veux-tu que je fasse les premières démarches auprès de Chaise Martin ?» Elle se tint pour blessée et garda le silence, mais intérieurement elle revint sur ce sujet. Elle l'examina sous toutes ses faces. Et sa gaieté si folle et si entraînante en souffrit vivement. On la vit souvent triste et préoccupée, et les petites querelles qu'elle eut avec Jacques ne se terminèrent ni aussi promptement ni aussi facilement qu'autrefois. Cependant, à cette époque déjà troublée, ils eurent encore quelques beaux jours et des moments de douceur ineffable. On était en plein été. Ils firent, les dimanches, de longues promenades au parc de Saint-Cloud, à Fontenay-aux-Roses, à l'île Saint-Denis, à Saint-Ouen, à Meudon. Plus libres, plus familiers qu'ils ne l'avaient jamais été, ils marchèrent dans les bois en se tenant par la main, ils jouirent délicieusement de la pureté du ciel, de l'ombrage des arbres, de la fraîcheur des eaux, de la solitude et du mystère. Jamais ils ne se parlèrent avec autant d'effusion. On aurait dit qu'ils avaient besoin de se rassurer contre quelque ennemi secret et de se confier tout ce qu'ils ressentaient de tendresse l'un pour l'autre. Ils furent ingénieux à se faire 1000 joies réciproques, à se ménager de douces surprises, à prolonger, à suspendre la vie pour la mieux goûter. On aurait cru que leurs lèvres, touchant déjà le fond de la coupe, s'y collaient avec obstination et ne voulaient plus s'en détacher, qu'ils se délectaient aux dernières saveurs, qu'ils respiraient les derniers parfums, et que tous deux, dans leurs années printanières, au milieu du plus riant et du plus doux des étés, ils touchaient déjà à l'automne de leur bonheur. Cela fut bien sensible pour eux dans un petit voyage qu'ils firent à quelques lieues de Paris, au Breuil, village de l'abri, où les attirait l'invitation d'une des compagnes de Caroline qui venait de s'y marier. Jacques n'était point invité. On avait seulement prié Mademoiselle Foulogne et son frère. Comme Jacques se désespérait,
« Rassure-toi !»
lui dit-elle.
« J'ai une combinaison. »«
Laquelle ?»«
Émile ne viendra pas. Tu le remplaceras. »«
Mais pour qui me feras-tu passer ?»«
Pour mon fiancé. Et on te recevra bien, je te le jure. »
Jacques était trop heureux pour discuter ce moyen et la question de convenance. Ils n'avaient jamais voyagé ensemble. Quel bonheur! Quand ils se sentirent emportés par le chemin de fer qui les conduisit jusqu'à Lagny, surtout quand une voiture qui faisait la correspondance pour Rozoy, Le Breuil et le château de la Grange les eut repris à Villeneuve-le-Comte, et que pendant 3 heures ils roulèrent en pleine forêt, ils crurent que leur cœur allait éclater. L'enchantement dura pendant les 5 ou 6 jours qu'ils passèrent au Breuil. Jacques, présenté avec une hardiesse naïve, fut traité avec une simplicité cordiale. Il prit ses repas chez leur hôte et logea à l'hôtel. Il fut de tous les divertissements, de toutes les promenades, mais il ne voyait que Caroline, et elle ne voyait que lui. Le matin qui précéda leur retour à Paris, Jacques entendit vers 5 heures frapper à sa porte.
« C'est moi !»
cria la voix joyeuse de Caroline.
« Il fait un temps admirable. On ne déjeune qu'à 8 heures. Nous avons 3 heures à nous. Habille-toi vite et viens courir la campagne. Je vais t'attendre en bas. »
Ils montèrent gaiement la côte qui s'en va vers Paris. À droite, il y avait des plaines. Les plaines plates et crayeuses de l'abri, dont çà et là quelques bouquets d'arbres interrompent à peine l'uniformité. En face, la grande route, toute blanche de poussière, s'étendait indéfiniment et se coupait au sommet avec l'horizon. Derrière eux, ils laissaient le village endormi, son église du village sans ornementation, mais intéressante par le manteau de lierre qui, l'enveloppant jusqu'au sommet, adoucissait l'aspect triste et grave de sa vétusté, et çà et là, pêle-mêle, ces maisons qui, baignées dans l'air du matin, paraissaient si fraîches, si coquettes et si neuves qu'on croyait les voir pour la première fois. Lorsqu'ils furent au haut de la côte, après une petite plaine, à 2 portées de fusil de la route, ils virent un rideau de bois que le brouillard teintait de bleu par places, et dont partout il tempérait le vert clair. Ce fut par là que, sans s'être consultés, ils prirent leur course. Quand ils furent entrés sous les arbres, ils n'éprouvèrent pas ce saisissement grave que presque toujours donnent les forêts. Les bois dans lesquels ils se trouvaient étaient de moyenne futaie. Ils étaient bien entretenus et paraissaient être l'accompagnement et la continuation d'un parc seigneurial. Les sentiers étaient très larges, sans ronces, sans ornières, tapissés d'un gazon souvent coupé, et de chaque côté les branches montaient épaisses et feuillues, taillées comme une charmille. C'étaient évidemment de petites routes ouvertes pour être parcourues par de belles dames en calèche, avec d'élégants cavaliers caracolant autour des voitures. L'impression, qu'en se prolongeant dans leur encadrement vert, produisait ces sentiers, était douce, fraîche, matinale. Les pieds y marchaient sans fatigue, et les yeux s'y reposaient avec plaisir sur les feuilles qui se mariaient harmonieusement à la lumière du matin dans des demi-teintes légèrement grises. On ne pouvait pas ni point être heureux,
Mais les conversations graves, les confidences douloureuses, les inquiétudes poignantes n'eussent pas été à leur place dans cette gracieuse nature. Aussi Caroline et Jacques ne pensèrent-ils qu'à marcher devant eux, se pressant tendrement l'un contre l'autre, respirant à pleine poitrine, regardant les yeux grands ouverts, oubliant tout, s'oubliant eux-mêmes. De place en place, dans les allées qu'ils suivaient, il y avait des demi-cercles avec des bancs de gazon. Lorsqu'elle se sentit un peu fatiguée, ils s'assirent sur un de ces bancs, en un endroit qui faisait éminence et d'où l'on voyait sans être vu. Leur regard courait sur un espace dégagé où l'année précédente il y avait eu une coupe. Les cépés commençaient à repousser et à s'élever au-dessus des broussailles, des herbes et des fleurs. À la lisière, ils apercevaient, ou croyaient apercevoir, les toits d'un village frappé par le soleil levant. De temps en temps, un jet ou une pie, flânant sur une branche, les apercevait et, brusquement effrayés, s'enfuyaient à tire-d'aile. Ils jetaient leurs cris d'alarme que répétait l'écho. Dans la profondeur sombre et fraîche des taillis, les merles et les fauvettes chantaient. Et sous les mousses, sous les herbes que le soleil commençait à échauffer et sécher, c'était de joyeux bourdonnements d'insectes.
Ah, que c'est joli! Quelle belle matinée! Comme je me sens heureuse, l'esprit léger, le cœur tranquille. Ah, si nous pouvions mourir en ce moment!
Non, mais vivre ici et ne plus revoir Paris.
Tais-toi,
interrompit Caroline en lui mettant la main sur les lèvres.
Pourquoi parler de Paris? Ces beaux arbres nous en voudront.
En ce moment, un paysan, la fausse sur l'épaule, passa devant eux et, affectueusement, il les salua.
« Comment appelez-vous ces bois ?» demanda Jacques.
« Les bois de Crillon. »
Il avait fait quelques pas au-devant du paysan. Il revint près de Caroline. Elle était toute pensive et ne disait plus rien.
« Qu'as-tu donc ?»
demanda Jacques. « T'ennuies-tu déjà ?»«
Non. » Mais j'ai une prière à t'adresser. Écoute-moi, Jacques, et ne me refuse pas. La vie, nous n'en sommes pas maîtres. Elle peut nous tromper et nous trahir. Notre cœur aussi peut avoir ses égarements et ses défaillances. Mais il y a des heures qu'on n'a pas le droit d'oublier, qui sont uniques dans leur charme comme d'autres dans leur horreur. Tu as du génie, toi, mon Jacques.
Et, lui écartant les cheveux, elle regarda son front.
« Eh bien, quand même je t'aurais abandonné, quand même tu ne m'aimerais plus, promets-moi de jeter dans un livre. Tu t'y prendras comme tu pourras, ces seuls mots, les bois de Crillon. Et dans mon souvenir, j'embrasserai ta chère tête comme en ce moment je t'embrasse. »
« Vous arrivez bien, mes enfants. »
leur dit Foulogne, quand, de retour à Paris, ils entrèrent dans la chambre de la rue de Provence.
« Vous allez me donner un coup de main. »«
Et pourquoi faire ?»«
Pour déménager. »«
On nous signifie donc congé ?»«
J'ai eu une discussion politique avec le propriétaire. Je l'ai collé sur la question de la Plata, et il nous renvoie. »
Jacques fut attristé. Il avait souffert dans cette chambre. Mais aussi, il y avait été si heureux que la pensée de la quitter lui fut cruelle. On chercha et on trouva un nouveau logement rue de Buffault, au 5e, avec une superbe terrasse, comme disait le concierge. Toutefois, avant d'entrer dans cet appartement, Jacques vit reparaître son ennemi et surgir encore le danger qu'il redoutait tant. Le lendemain même de son retour, il travaillait lorsque Émile entra brusquement.
« Laisse tout cela et descends vite !»
lui dit-il.
« Pourquoi donc ?»«
Chaise Martin est en bas avec le critique. Je les ai rencontrés ce matin dans un café. Et depuis, nous sommes en voiture. C'est un 4 places. Mais nous n'y serons pas trop à notre aise, car le critique est gros. Prends ton chapeau. Nous allons au moulin de la Galette, à Montmartre. »
Jacques arriva tout ému à la portière de la voiture. Chaise Martin, plus railleur que jamais, dit au critique.
« Je vous présente une jeune gloire de la littérature à venir. Un jeune homme de beaucoup d'esprit, qui a peut-être plus besoin de leçons qu'il ne croit, mais qui recevra les vôtres avec déférence. »
Le critique, qui avait la figure très empourprée, et qui, le menton appuyé sur sa canne, paraissait dormir, ouvrit les yeux, regarda dans le vague, puis les referma aussitôt.
« Il est un peu fatigué, »
dit Chaise Martin, qui, malgré son aplomb, rougissait sensiblement.
« Il travaille beaucoup depuis quelques jours. »
On s'attabla au moulin de la Galette, mais au bout de quelques minutes, et probablement à cause de la chaleur, Foulogne et le critique, d'un commun accord, se renversèrent sur le dossier de leur chaise et ronflèrent formidablement.
« Laissons-les dormir, »
dit Arthur à Jacques.
« Et allons faire un tour sur les buttes. Je voudrais causer quelques instants avec vous. »
« Mais, » fit Jacques en montrant le critique et Émile.
« Oh, soyez sans crainte. Ils en ont pour longtemps. Et quand nous reviendrons, ils dormiront encore. Je les accompagne depuis ce matin. Je sais ce qu'ils ont bu. C'est moi qui ai payé partout. Et ils en ont pour 2 heures au moins. Je connais mon critique. »
Jacques aimait généralement assez peu les conversations de Chaise Martin. Cependant, cette fois, il ne se fit point prier. Étonné de cette proposition, intrigué de cette insistance, il se leva, et moitié soucieux, moitié curieux, il le suivit. Tout en cheminant et en regardant Paris, Chaise Martin commença l'entretien.
« Voyons, mon cher Jacques, dites-moi donc au juste ce que c'est que cette jeune fille avec laquelle nous avons dîné. Lui êtes-vous beaucoup ou ne lui êtes-vous rien ?»«
Elle est ma fiancée. » »«
Très jolie. Vous avez bien dit ça. Elle est ma fiancée. Eh bien, ma parole d'honneur, je croyais qu'il n'y avait plus de fiancée qu'au théâtre. Nous avons la fiancée d'Aubert, la fiancée de Lamermoor, et puis Zampa, ou la fiancée de Marbre. Nous aurons la fiancée de Monsieur Jacques. Ça fera 4. Très jolie. »
« Mais enfin, de quelle expression voulez-vous que je me serve ?»«
Si elle ne vous est rien, dites mademoiselle. Si elle vous est tout, dites ma maîtresse. Mais bonté divine !»
C'était un juron du critique qu'Arthur lui prenait quand il dormait.
« Ne dites plus ma fiancée. Cette demoiselle n'est pas plus votre fiancée qu'un avoué est un procureur ou un notaire un tabellion. Laissez-la cette couleur troubadour et parlons sérieusement, n'est-ce pas ?»
« Je parle très sérieusement, et si le mot est un peu bizarre, c'est que notre situation l'est aussi. Nous nous aimons, nous devons nous marier. Ma mère y consent, des obstacles purement matériels s'y opposent seuls. »
« Autrement dit, vous êtes sans le sou, et vous vivez comme ça, faisant du sentiment, regardant la lune, soupirant des élégies comme deux chastes âmes qui sont désespérées d'avoir un corps. Cherchez d'autres à qui le faire croire. » Mais je vous avoue que, si cela était vrai, j'aurais d'elle et de vous une triste opinion. Comment, vous avez 20 ans tous les deux, elle est jolie, vous êtes laid, mais d'une laideur intelligente, elle vous croit du talent, vous lui croyez de la vertu. En mitonnant tout cela, ça fait une vraie espèce d'amour, et vous n'en seriez qu'à vous serrer la main, les yeux dans les yeux, en écoutant votre âme? Ah, mais non, non, vous êtes trop fort pour moi, mon garçon. Et si vous n'êtes pas un être plus primitif qu'un chêne druidique, vous êtes diablement corrompu. » «
Ainsi vous croyez que je mens ? » «
Ma foi, mon cher, je ne voudrais pas vous fâcher, mais je vous le répète, si vous dites vrai, tant pis pour vous. » «
Vous croyez aussi sans doute que je ne l'épouserai pas ? » «
Ah, là-dessus, dispensez-moi de me prononcer. Moi, je n'ai jamais eu de fiancée, et je ne sais pas comment on agit avec elle, seulement. Comme vous ne roulez sur l'or ni l'un ni l'autre, vous ferez en vous mariant une chose insensée. Au bout d'un an, elle en aura assez de vous et vous plantera là. Ce n'est pas poétique, mais c'est véridique. Ce serait aussi sage de se jeter à la rivière sans savoir nager. Cependant, comme c'est une chose très extravagante, elle pourrait bien se faire. » «
Ah ça, mon cher, qu'avez-vous donc ? Que voulez-vous et pourquoi me parlez-vous ainsi ?
pas pour vous dégoûter de cette demoiselle, croyez-le bien. Je ne l'ai vue qu'une fois et ne la reverrai peut-être pas. Elle est assez gentille. Son frère est un bon garçon. Je m'intéresse à eux, à vous, sans m'y intéresser précisément. Et je ne serais pas venu exprès de la rue Vendôme à Montmartre pour vous dire ça. Mais un hasard nous rapproche. Nos compagnons dorment comme des bûches. Il faut bien passer le temps. Vous me parlez, je vous réponds. Je vous vois prêt à sauter dans un trou, je vous retiens par le pan de votre habit. S'il me restait dans la main, il ne faudrait pas m'en vouloir.
Je crois que vous voyez la vie trop en noir, mon cher Arthur. Nous sommes courageux, Caroline et moi. Nous travaillerons. Nous lutterons contre la fortune et nous la vaincrons, je l'espère.
Ceci est du mélodrame, mon bon, et vous êtes véritablement trop littéraire. Mais ici, nous changeons de littérature. Après l'opéra, l'ambigu. Je vois ça d'ici, avec des décors. Ça sera superbe. Votre femme honnête, vous honnête aussi, est extrêmement panée. Un enfant dans un berceau et pas d'autres accessoires pour simuler la misère, ce qui réjouit la direction. Puis un monsieur bien mis, un peu canaille, moi, si vous voulez, s'introduit par la porte ou la fenêtre. Pendant que vous faites des démarches pour obtenir les 83e places qu'on vous promet depuis 2 mois, la jeune femme repousse le séducteur, vous rentrez en annonçant que vous venez d'être nommé concierge, le monsieur se sauve, l'enfant crie, vous le prenez dans vos bras, sa mère vous le dispute, vous vous embrassez tous, tableau, au bruit des applaudissements. Je connais cette histoire, et le bon, c'est que vous n'y croyez pas plus que moi. Au fond, vous savez très bien qu'avec 2 misères, on ne fait pas ce que les vaudevillistes appellent une honnête aisance, et qu'au lieu de mettre le pot-au-feu tous les jours, on met tout simplement sa chemise au Mont-de-Piété, quand toutefois on a une chemise.
« Et mon travail ?» interrompit Jacques en regardant Arthur avec une noble fierté. Mais celui-ci prit une figure étonnée, digne d'un des comiques du Palais-Royal.
« Quelle profession exercez-vous donc ?»«
Et parbleu, vous le savez bien, j'écris. »«
Dans votre chambre, oui. Mais dans quel journal, s'il vous plaît ?»« Grâce au désœuvrement dans lequel je passe ma vie, quand je ne suis pas au Champ de Mars à voir défiler les régiments, je suis au café, et comme on ne peut pas toujours boire, parce que ça fait mal, je me forme le cœur et l'esprit en lisant toutes les feuilles de choux parisiennes. C'est peut-être défaut d'attention de ma part, mais je n'ai jamais vu votre nom ni dans la Revue des Deux Mondes, ni dans les débats, ni même dans le Moniteur de l'épicerie. Si je me suis trompé, rectifiez, je vous prie, mes idées. Je n'ai rien lu de vous.
Mais j'aurais un vif plaisir à faire connaissance avec votre prose.
Vous vous amusez gratuitement, et vous savez aussi bien que moi qu'on n'entre pas facilement dans un journal. Mais, malgré vos railleries, je sais que j'ai du mérite, et il faudra bien que je perce.
Décidément, vous êtes colossal. Mais si vous n'êtes pas plus original dans ce que vous écrivez que dans votre conversation, vous n'aurez pas de succès. Voilà 1 heure.
Il regarde sa montre.
Non, 3 quarts d'heure, mais ça ne fait rien, que vous défilez devant moi toutes les balivernes qui ont bercé mon enfance. Vous avez une fiancée, vous vivez dans une mansarde, vous avez du mérite, vous percerez, qu'est-ce que vous percerez? Vos bottes, si vous en avez, et voilà tout. Tenez, ma parole d'honneur, si je vous laissais encore parler, vous me diriez d'un air tragique comme ça.
Et il se décomposait la figure.
Eh bien, si je ne réussis pas, je me tuerai.
Vous croyez qu'on se tue parce qu'on n'a pas de quoi vivre, mais on a de quoi vivre, plus on s'accroche à la vie. Si vous ne réussissez pas, et vous ne réussirez pas, parce que quand vous auriez du talent, ce que j'ignore, il faut au moins un intrigant pour vous lancer, et qu'il n'y a pas en vous matière à une opération. Si vous ne réussissez pas, vous ne vous plongerez aucun poignard dans le sein, mais vous plongerez une main très indiscrète dans la poche de vos amis, comme par une fatalité vous arriverez toujours chez eux au moment où l'on mettra la soupe sur la table, vous roulerez toujours dans votre tête un livre gigantesque, et vous appartiendrez en première ligne à la rédaction d'une foule de journaux qui n'auront d'autre tort que de ne pas exister. Vous arriverez comme ça assez avant dans la vie, en donnant pas mal d'entorses à votre conscience, et en faisant des trous à la lune pendant que votre femme raccommodera ceux de vos pantalons. Et puis un jour, vous disparaîtrez. On ne saura pas ce que vous êtes devenu. vous ne le saurez pas vous-même, tant vous différerez du jeune homme intelligent qui se tient roide et colère devant moi. Vous végéterez, vous vous éteindrez dans quelque servitude infime, heureuse si elle n'est pas crapuleuse. « Ah, vous croyez,
s'écria-t-il en montrant Paris,
que c'est en faisant du sentiment avec les petites modistes et en se berçant de chimères qu'on arrive à monter le cerveau et à gonfler le cœur de tous les gens qui habitent dans ces maisons-là? Si vous n'êtes pas un homme vraiment extraordinaire, vous croyez qu'ils vont quitter leurs occupations pour s'intéresser à vous et vous regarder passer? Certainement, par le temps qui court, un monsieur qui a une fiancée et qui se figure que le mérite perce est un monsieur précieux et rare, mais ça ne suffit pas. Tenez,
continua-t-il en désignant du doigt le moulin de la galette,
ce gros homme qui dort là-bas et qui vous a paru vulgaire sans doute. Savez-vous ce qu'il a subi de douleur, remué d'idées, traversé d'abîmes pour écrire sur son front? Je suis le critique. Vous sentez-vous les reins assez forts pour faire comme lui? Non, n'est-ce pas? Eh bien, alors, redescendons et buvons d'autant.